Madame le maire, Monsieur Capet, je comprends ici que les propos qui ont été tenus lors du dernier conseil municipal, et j'ai eu l'impression pendant au moins une heure, fort intéressante et sous certains côtés peu agréable, mais c'est ainsi que vont les choses dans ce conseil municipal, puisque nous le savons, d'un côté il y a les bons et de l'autre les méchants, d'un côté il y a les cons et de l'autre il y a les intelligents. Mais je ne veux pas me lancer dans une polémique, Monsieur Capel, parce qu'au travers de propos qui se veulent à la fois un peu lénifiants et un peu doucereux, il y a toujours derrière cette trame de polémique incessante que je n'alimenterai pas ce soir. Juste deux mots, si vous le permettez, sur à la fois la question fiscale, où vous me dites, vous avez augmenté les impôts en montrant du doigt de 12% pendant une mandature. C'est vrai, nous avons là rattrapé peut-être un retard en matière de préemption fiscale que nous n'avions pas adopté pendant tout un mandat à entier. Et si vous avez l'honnêteté de regarder les chiffres de près, il faudra que vous regardiez les choses, non pas sur 4 ou 5 ans, mais sur une bien plus longue période. Vous dites, vous êtes d'un côté ou à côté de la PAC parce que vous n'avez aucune proposition. Non, je crois que nous avons des propositions aussi. Je crois que c'est peut-être moins en moi de les faire. Il y a ici une jeune génération ou une nouvelle génération politique, à la fois dans la majorité comme aussi dans l'opposition. Et c'est aussi à elle, Madame le maire et M. Capet, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'elle pense des choses de la vie à Lourdes, de son actualité comme de son futur. Vous dites, d'un côté, il y a la grande politique et de l'autre, il y a la petite politique. Mais aujourd'hui, le débat public est un débat général. Il est autant au sein du conseil municipal qu'en effet dans divers organes de presse. Et vous le savez bien, puisque vous-même, en un temps qui n'est pas si lointain, vous n'avez peut-être pas la même attitude à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, à la fois la presse et à la fois certains médias. Je laisse à chacun ici le soin de passer ce qu'il dit. La ville de Lourdes, je l'ai dit souvent, et c'est peut-être là au fond où nous divergeons, mais sans au fond vraiment diverger. Et je voudrais que préciser tout à fait ma pensée, qui est plutôt la pensée dorénavant de quelqu'un qui a un passé politique derrière lui, si je puis le dire, qu'un avenir politique devant lui. Je crois que votre problème est un problème un peu psychologique par rapport à l'affaire des pèlerinages et de ce qu'est la ville de Lourdes au fond, en tout cas dans son... pas simplement dans le versus pèlerinage, mais dans son économie propre. Ce qui fait ou ne fait pas la force et l'économie de Lourdes, ses nuitées, sa fréquentation, c'est le pèlerinage collectif. Bien. Et vous n'avez peut-être pas tort non plus, et je le dis avec la plus grande des clartés, de vouloir aussi regarder vers d'autres cieux et d'autres pistes, et on va les appeler entre nous plus vulgairement des pistes touristiques. Vous n'avez absolument pas tort. Mais je ne voudrais pas, et ça fait simplement partie de la proposition que je continuerai à émettre, oublier ce qui est la force de Lourdes, la force marémotrice de Lourdes, c'est-à-dire les pèlerinages. Et je voudrais, si vous permettez, je ne vous ai pas interrompu, donc j'aimerais aller simplement au fond de mon propos. La responsabilité du pèlerinage n'est pas ici, Madame Bourdon. La responsabilité du pèlerinage, oui, j'exonère de tout échec, ou voire de même de tout succès futur. L'avenir des pèlerinages n'est pas nécessaire, il n'est pas ici au sein du conseil municipal. Il faut avoir la plus grande des humilités, nous faisons souvent ce que nous pouvons. L'avenir des pèlerinages, il est au sanctuaire, dans le sanctuaire et par le sanctuaire. Il faut peut-être aujourd'hui, et ce sera peut-être votre devoir et votre tâche, que de, non pas réhabiliter la relation entre le sanctuaire et la ville, la relation entre le sanctuaire et la ville a toujours été bonne. Laissez-nous simplement la part d'une création, c'est que, en tout cas pour nous, et je pense à l'équipe et aux équipes que j'ai eu l'honneur de diriger pendant un certain temps, nous les avons institutionnalisées. Et cette institutionnalisation s'appelle la scène de la crise. Peut-être qu'aujourd'hui, le sanctuaire est dans une posture qui est une posture un peu plus, attentive par rapport à de grands mouvements de fond et aussi à des pertes qui se sont en effet faites ressentir. depuis en tout cas 2008, qui a été la pointe de la fréquentation à Lourdes. Et quand nous comparons la pointe des fréquentations à Lourdes, 58, nous passons comme ça une année de 1 300 000 visiteurs à 3,5 millions, la ville de Lourdes a mis quasiment 10 ans pour récupérer cette fréquentation. 2008, c'est le jubilé, c'est le 150e anniversaire, c'est peut-être, c'est pas moi qui parle, c'est Monseigneur Perrier, peut-être 7, peut-être 8 millions de visiteurs, guère plus dans le fond de nuitées, puisque les nuitées à Lourdes depuis une quinzaine d'années, vous y remédierez, hein, sont toujours, en tout cas dans de bonnes périodes, autour de 3 100 000, quand ça va mal, autour de 2 600 000, 2 800 000, et nous avons eu des périodes dans un passé récent qui étaient comme ça. Bien. Donc, il faut vraiment peut-être, et voilà une idée, je ne sais pas si c'est une idée, mais en tout cas, c'est plutôt une réflexion de ma part, le travail que doit effectuer le sanctuaire, parce que nous sommes sur un objet qui est un objet très subjectif, ça s'appelle la religion, la fréquentation, le lien d'attachement à Lourdes, le lien d'attachement à ce qui est Lourdes, mais ce qui est Lourdes, nous avons le devoir au sein de ce conseil, et vous, la première dorénavant, de s'attacher aux Lourdaises et aux Lourdais. La question des pèlerinages, Madame Bourdeux, Monsieur Capel, souvent nous échappe, elle est fragile, et il faut peut-être, avec le sanctuaire, trouver d'autres formes de travail pour récupérer, en particulier les pèlerinages français, qui depuis une dizaine d'années, pour différentes raisons, sont, on peut le dire, en désuétude. Sur la Grande Aglo, répondant, et non pas par la calomnie, à une question, l'autre jour, on m'a demandé si Bourdeux et Artigianat, c'était le même combat par rapport à la Grande Aglo. Moi, je ne suis pas le maire de Lourdes, quelque part du merci, aujourd'hui. Et j'ai trouvé un certain nombre de dissonances dans notre attitude. En tout cas, comme je l'ai dit ici, lors d'un dernier conseil municipal, à propos de la Grande Aglo, il faut reconnaître quand même, et vous ne le faites pas suffisamment, que cette délibération-là est une délibération tout de même d'une certaine ambiguïté, mais vous y remédiez, Oui. Cette Grande Aglo est une nécessité. Mais un peu comme la loi El Khomri, je crois qu'à la fois la pédagogie n'a pas été mise en exergue, et d'autre part, et je continue à le dire, cette question est peut-être un peu précipitée, sans moratoire fiscal, nous ne savons pas ce que ça va nous coûter, vous nous dites, M. Capet, ce que ça va nous rapporter, et quelque part tant mieux, puisque je sais que c'est la pierre angulaire de votre intervention dans le souci que je crois nous partageons de voir cette Grande Aglo émerger. Pour nous, certains de mes collègues, en tout cas, soyons honnêtes de le dire, ce n'est pas exactement comme ça que nous voyons les choses dans le court terme. Il fallait de la pédagogie, il fallait montrer un certain nombre de directions, il ne fallait pas aller vers des problèmes que peut-être nous aurons de la difficulté à maîtriser. La question, par exemple, scolaire est une question qui est au centre des choses. Je me demande demain matin si la Grande Aglo n'a pas la compétence scolaire, ce que va faire le maire de Saint-Pé avec l'école que nous avons construite. Mais ceci, la réponse à cette question vous appartient. Nous nous voyons plutôt une Grande Aglo dont les prémices ont été bâties dans des municipalités précédentes, et vous en faisiez partie, ça s'appelle Pyrénia, que nous avons contribué à fonder, comme le syndicat de transport que nous avons contribué aussi à fonder. Là, il y a les prémices de 3 compétences qui semblent peut-être d'abord indispensables et qui peuvent faire l'objet auprès d'un certain nombre de maires qui ne partagent pas notre point de vue. On peut comprendre, parce qu'ils ont peur, de perdre la souveraineté, ils ont peur de perdre l'intégrité en termes de décision. 3 compétences semblaient peut-être être à mettre en exergue dans une relation qui était une relation intermédiaire. Le développement économique, le développement durable, parce que ce département et cette Grande Aglo future, je vous ai posé la question l'autre jour en communauté de communes, et vous m'avez dit que vous ne lisiez pas dans le marc de café la question de la gestion des déchets, de leur traitement, de la collecte et du tri est une question qui est une question, on va dire, régalienne centrale. Donc, c'est pas simplement la seule facette que peut présenter cette compétence en termes de développement durable. Voilà la seconde. Et les transports. Et je dirais, c'est un peu l'idée que nous avons, dans une situation intermédiaire pour ne pas à la fois froisser peut-être des opinions dans ce qu'on appelle la ruralité. Je terminerai là-dessus, je ne veux pas être long, qui sont aujourd'hui exacerbés par rapport à ça. Cette position intermédiaire pouvait être une bonne position. Nous avons des opinions politiques. M. Capel, l'autre jour, se gossait de certaines de mes attitudes politiques. Moi, je marche à l'affection. Donc, quand on me demande des choses, j'essaie d'y répondre. Bien. Ce qui nous oppose au fond, à la fois dans le département comme d'un point de vue plus national, mais là où nous pouvons nous retrouver, parfois, je pense là à certains éléments du Parti Socialiste, c'est que demain, il y aura évidemment, par rapport à ces agglos, un échelon de trop. Il y aura un échelon de trop. Il y aura un échelon de trop d'un point de vue fiscal et il y aura un échelon de trop d'un point de vue organique. Nous n'avons pas évoqué ici la difficulté qu'il y aura à pouvoir gérer une grande agglo à 155, 157 ou 158 membres. Ça, c'est une autre question. Mais il est clair pour nous, et c'est peut-être là le fond du débat, que l'on veut masquer en parlant de dorénavant absence de proximité pour quelque chose de plus supranational. Oui, c'est la disparition du département, de cette collectivité territoriale qui est en jeu. Il faut le dire, il faut avoir quelque part. Alors, M. Capel disait la lucidité, l'honnêteté de le dire. Si nous militons aussi pour de grandes agglos, si nous avons pu, ensemble ou pas, créer ou commencer à constituer créer des intercommunalités, c'est parce qu'il faut aller dans le même sens, en essayant aussi de réconcilier les gens. Quand vous parlez, j'entendais ici des propos, et parfois nous avons accentué les choses sur la ruralité, il n'y a pas à être contre les ruraux. Qu'est-ce que c'est que la ruralité aujourd'hui? Nous sommes tous des urbains, nous ne sommes pas dans les grandes plaines d'Île-de-France où les céréaliers s'engavent sur le dos de la PAC. Nous avons affaire à des gens, à des populations, à des entités qui sont souvent et qui partagent un certain nombre de choses à peu près équivalentes, sauf que elles n'habitent plus dans les bourgs-centres. Cela est valable à Tarbes, cela est valable à Lourdes, cela est valable à Lannemezan, cela est valable à Bagnères-de-Bigorre et cela est même valable à Vitre. Et donc nous constituons une autre forme de tissu, et une des difficultés que nous avons en tout cas en langage politique aujourd'hui, c'est de faire passer ce message-là. Rien ne sera possible si nous ne définissons pas un destin commun, si nous ne le faisons pas dans la clarté et dans la clairvoyance, ce qui veut dire quel moratoire fiscal, quelles compétences, et si nous ne l'expliquons pas, ce sera, Madame le maire, dorénavant, plus votre tâche que, en tout cas, la mienne. Je vous remercie.